pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le titre de ce film est passé dans le langage courant, en tout cas dans certains milieux. Comme on dit, c'est Les Misérables ton histoire, ou c'est La cage aux folles ce gars-là, on dit désormais c'est Festen. Et quand on dit ça, on pense généralement à une réunion de famille, une fête, au cours de laquelle, à un moment donné, un secret est soudain révélé, et on pense également à la catastrophe que cela provoque ou évoque. Dans le film de Thomas Vinterberg, qui est un des plus bouleversants, à mon sens, qu'on ait vu sur la famille, Helge, l'honorable père, fête ses 60 ans dans la grande propriété familiale. Ses enfants et petits-enfants sont tous réunis dans une ambiance scandinave qui démarre en mode Fanny et Alexandre version dogme et atteint son apothéose dans une scène inoubliable lors du dîner le soir. C'est le moment des toasts. Christian, un des fils, se lève et fait teinter son verre avec son couteau. Je voudrais proposer le premier toast. Après tout, c'est mon devoir de fils aîné. Il invite ensuite son père à choisir entre deux enveloppes et ouvre la verte qu'il a choisie. C'est une sorte de discours de vérité, annonce-t-il. Je l'ai intitulé « Quand papa prenait son bain ». Puis il poursuit. J'étais très jeune quand nous avons déménagé, tout a changé pour nous. Nous avions de grands espaces et plein d'occasions d'y faire des bêtises. Et bien sûr, on se faisait pincer. Mais rien ne nous arrivait. C'était beaucoup plus dangereux quand papa prenait son bain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa était un maniaque de la propreté. Il emmenait Linda et moi dans son bureau. Il avait d'abord une chose à régler. Il verrouillait la porte, baissait des persiennes et allumait une jolie petite lampe. Il enlevait sa chemise et son pantalon et nous devions en faire autant. Il nous allongeait sur la banquette verte qu'on a jetée depuis, puis il nous violait. Il abusait de nous sexuellement. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. À la mort de ma sœur, j'ai réalisé que Helge était un homme très propre avec tous ses bains. J'ai donc pensé qu'il fallait partager ceci avec toute la famille. Des bains, été comme hiver, au printemps, en automne, matin et soir. Bon, finit-il, vous n'êtes pas venu pour m'écouter. Nous sommes là pour célébrer les 60 ans de Helge, alors faisons-le. Donc merci pour toutes ces bonnes années, bon anniversaire. La réaction des convives après le discours, qui refuse de l'entendre, le rejette, pour être finalement complètement abattu, l'histoire même de ce secret et du silence coupable qui l'entoure pendant toutes ces années sont assez exemplaires du fonctionnement des fameux secrets de famille. C'est-à-dire, en gros, un savoir, une expérience, une information que tout le monde possède plus ou moins consciemment, mais qu'on ne partage pas et dont on ne parle jamais. Une situation qui est de l'avis unanime de tous les psychiatres, psychanalystes, psychologues, psychomotriciens, bref, de tous les psys du monde et aussi d'après le sens commun, qui est une des choses les plus destructrices qui soit pour l'âme humaine. Aujourd'hui donc, dans Les Pieds sur Terre, trois secrets de famille, c'est jusqu'à 14h, ils sont racontés par Fabienne Lhomonnier et vous écoutez bien sûr France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je peux raconter un souvenir où on part en vacances. Donc on est avec Sarah et mon père dans la voiture et Olivier est là. Donc Olivier, l'ami de mon père. Le copain. Et on arrive donc chez ma grand-mère. Je suis un peu étonnée qu'Olivier soit là, mais mon père dit « Surtout, bien sûr, vous dites pas à mamie qu'Olivier est là. » Donc il arrête la voiture un peu avant la maison et Olivier descend de la voiture et il nous amène, comme si de rien n'était, chez notre grand-mère. Et là, je me dis « Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il dit ça ?» Olivier était quand même là tous les week-ends quand on allait chez notre père. Hein, il s'occupait de nous comme une mère. Moi, j'avais beaucoup de mal avec lui. Il m'énervait parce qu'il était presque plus père que notre père et plus mère que notre mère. Adorable. Nous lavant les cheveux, nous séchant les cheveux. Mais je me suis toujours demandé ce qu'il faisait là, quoi. Et en même temps, il était là comme un ami, mais ça m'arrivait de le voir sortir en peignoir de la chambre de mon père. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il sort en peignoir, mais sans jamais pouvoir me formuler quoi que ce soit. C'était juste des constats comme ça. Il disait rien, jamais il disait rien. Mon père était très silencieux, il disait rien, et moi je ne disais rien non plus. Il le présentait pas, ne présentait pas, c'était pas le premier homme qui venait les week-ends comme ça. Mon père avait des amis, pareil, très sympas, qui discutaient, qui nous racontaient des histoires. Je les avais jamais vus auparavant. De temps en temps, ils revenaient, ils disparaissaient. Il y a que Olivier, du coup, qui est resté longtemps et où, du coup, j'ai commencé à m'interroger. Le souvenir que j'ai pour me dire, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il y avait entre eux, c'est des regards, en fait. De voir mon père regarder Olivier avec un visage quoi, tout souriant, tout ému, comme jamais. Il n'avait jamais regardé personne, quoi, ni moi, ni ma sœur d'ailleurs. Hein, quoi. Je n'ai jamais vu ce regard-là. Quoi. Donc c'est, je pense, à partir de là que j'ai pu me dire, tiens, il y a quelque chose. J'ai des copines qui venaient, qui voyaient Olivier, surtout une copine, et je crois que c'est la première fois que j'en ai parlé. Oui, c'est ça, la première fois que j'en ai parlé, c'était à Marie, je devais avoir 11-12 ans. Et je lui dis, écoute, c'est bizarre, je crois que mon père aime les hommes. Elle me dit, ah bon ? Voilà, j'en discute avec des copines. J'ai une autre copine qui vient passer une semaine à Paris chez mon père. Elle me dit, moi, c'est clair, Églantine. Il n'y a pas de doute, je suis rentrée dans les toilettes, il y avait plein de revues d'homo, et que mon père a ensuite caché. Il avait oublié de les enlever, en fait. Donc il devait quand même éviter qu'on s'en rende compte, sans se cacher qu'il était avec un homme. Mais évidemment, il n'embrassait jamais devant nous. Hein. Il n'y avait pas de gestes tendres, il y avait juste des regards tendres, ouais, voilà, de la tendresse. Il y a un moment où je me rends compte que mon père va pas bien. Il est fragile, il a maigri. Il dit même à un moment, j'ai quelque chose, je suis malade. On lui dit, mais quoi ? Qu'est-ce que t'as, quoi ? Dis-nous, quoi ? Qu'est-ce que t'as, quoi ? Et à cette époque-là, c'était quand même dans les années 90. Il y avait tout le scandale autour du sida. On en entendait parler dans les journaux, dans la presse, quoi. C'était quand même très présent. Donc j'ai fait le lien. Moi, je me suis dit, bon, il y a quand même grande chance qu'il soit séropositif, quoi. J'ai vu des traitements qui traînaient, et en effet, c'était des traitements que prenaient les séropositifs. Donc, il n'y avait pas de doute, mais moi, je voulais qu'il me le dise, je voulais l'entendre de sa bouche, quoi. Mais j'étais en même temps incapable, moi, de lui dire, mais papa, je sais, dis-moi, je sais, quoi. Et là, ça a été un gros clash. À un moment, mon père déménage de Paris, donc ramène tout dans sa maison de campagne, et me fait ranger un buffet, les tiroirs du buffet. Il me dit, toi, tu ranges les tiroirs du buffet. Je dis ok, il y a plein d'autres trucs à ranger, mais je veux bien. Et je tombe sur une lettre. Donc évidemment, j'ouvre. Je peux pas m'empêcher. Je l'ouvre, je la regarde, je lis le titre vite fait. Hop, je la plie, je me dis oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Et en fait, dans ce courrier que je réouvre plus tard, c'est une scène que mon père raconte entre lui et Olivier où il se fâche en disant c'est à cause de toi que je suis malade, c'est toi qui me l'as refilé, non c'est toi, un dialogue comme ça hyper dur quoi. Donc je planque cette lettre, je finis de ranger mon tiroir et le soir quand on rentre à Nantes, à l'appartement, je décide de la montrer à ma sœur. Et là, pensant qu'elle savait, qu'on pouvait en discuter, je dis quand même regarde. Et là, elle part en grosse crise, quoi. Grosse crise de larmes, elle crie, quoi. Elle hurle. Donc, je vais chercher ma mère. Je montre ce que j'ai montré, donc la lettre. Et là, ma mère m'engueule en me disant, mais vraiment, tu fais n'importe quoi. Donc, définitivement, je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas en parler. Donc, je découvre aussi à ce moment-là que finalement, nous n'avons pas vécu complètement les mêmes choses et ça n'a pas eu le même impact sur ma sœur et sur moi, quoi. Mon père a toujours fait comme si je savais. Il me regardait toujours par transmission de pensée, quoi, en me disant, de toute façon, tu sais, quoi. Alors, il y avait une énorme complicité entre nous. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais été capable de me dire, alors que je l'ai plusieurs fois sollicité, quoi. Ça sortait pas, quoi. Ça sortait pas de sa bouche, quoi. Il y avait beaucoup de honte. C'était pas assumé, c'était pas, ils n'avaient pas conscience des conséquences que ça pouvait avoir sur les enfants, sur nous. Ouais, c'était complètement tabou. Moi, surtout, c'est ce secret-là, j'étais incapable d'apprendre à l'école. J'allais à l'école parce que ça me dérangeait pas, ça me sortait de mon milieu familial, donc j'aimais bien aller à l'école. Mais j'y ai rien appris, absolument rien. Et justement, le jour où quand même je me suis dit, ce serait bien que tu aies ton bac, parce que je l'avais pas eu, je l'ai passé deux fois, je l'ai pas eu. Je sentais que j'en avais quand même les capacités. Je me suis dit, bon, faut que tu le repasses. Et là, je me rendais compte que j'étais incapable de me mettre au travail, alors que ça me plaisait, puisque c'était en plus des cours pour adultes. Donc. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai consulté. Je suis allée voir une psy. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je dois passer mon bac, j'arrive pas à apprendre, j'arrive pas à me mettre au travail, je comprends pas, je vais vous raconter mon histoire. Donc je lui ai raconté mon histoire. Et elle m'a dit, un enfant qui voit des choses et à qui on ne dit pas ce qui se passe, il peut pas savoir après, il peut pas apprendre, il peut pas, il se fait son propre monde, quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, je me suis même fait mon propre vocabulaire. Il y a plein de mots, des fois, j'ai pas la bonne définition, j'ai ma propre définition. Hein. Bon, cette psy, elle a, voilà, j'ai parlé pendant une séance. Et je suis quand même retournée la voir une semaine après, parce qu'il s'était passé un truc extraordinaire, c'est que du coup, j'ai fait un rêve où j'accouchais dans la mer d'un énorme fœtus, mais vraiment un truc mais monstrueux, énorme, en pleine mer. Et là, ma mère était à côté de moi et m'aidait à enfoncer ce lourd fœtus, quoi, ce gros secret qui était remonté du coup à la surface. Quoi. Et donc, et c'est, je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah oui, c'est un secret et il ne faut surtout pas qui remonte à la surface, quoi. Et ça a été très, très fort, et j'ai eu mon bac, quoi. Et c'était quand même une porte, après, d'entrée dans la vie professionnelle. Alors moi, j'en ai énormément voulu aux gens qui étaient autour de moi, aux amis, aux adultes qui nous entouraient, qui étaient très présents, mais qui, à aucun moment, nous parlaient. Mon père était malade, en train de mourir. Il n'y a aucun adulte qui a pris l'initiative de venir nous en parler, quoi. Parce que j'étais quand même dans un milieu socio-cul, quoi. Un peu dans le social et un peu culturel. Donc des gens qui sont quand même au courant de ce qui se passe autour d'eux, quoi. C'est quand même pas... Alors ma mère nous l'a quand même dit à un moment donné, hein, avant que mon père meure. Mais elle n'a pas parlé d'homosexualité. Elle a juste dit, bon, il faut qu'on discute. D'après vous, qu'est-ce qu'il a votre père? Il était complètement délirant, hein, à l'époque. Et j'ai dit, bah, il a le sida. Écoutez, c'est pas... Et ça s'est arrêté là. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment mes copines. Parce que c'était les seules à qui je pouvais parler, quoi. La maladie de mon père est restée secrète dans la famille. Personne n'a voulu entendre. Il est parti avec son secret, quoi. Ça doit être le temps qui passe, mais peut-être même la notion de secret qui agit, mais moi, j'ai pas du tout de souvenirs précis. C'est des images furtives, puisqu'en fait, on n'allait jamais voir mon oncle à côté de chez nous. Il fallait toujours faire un trajet, c'était toujours se lever tôt, organiser. Dans mon souvenir, c'était quand même un long temps de trajet, 2 à 3 heures. Il fallait se tirer du lit pour y aller. Après, il y avait un plaisir à aller le voir, hein, mais c'était un effort. Après, c'est flou quand les souvenirs de petite fille. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me souviens que très, très bien. On devait passer plein de portes, des détecteurs, on devait être fouillé. On laissait des choses dans des casiers. Mais ce n'était pas une prison. Alors, parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était une prison. Donc, j'étais dans un lieu où il y avait plusieurs personnes. Une grande salle assez bruyante, j'ai l'impression que c'était collectif. Alors je sais pas, hein, si à l'époque c'était possible les parloirs collectifs comme ça. Et alors ce qui est dingue, c'est comme je pense qu'on m'avait dit, votre oncle est malade,
Il est soigné, et on m'a dit, il a mal à la tête. Je me souviens très bien de ça. Parce que du coup, alors, chose impossible, quand je lui rendais visite, il n'avait pas de bandage sur la tête. Mais moi, j'ai l'image d'une salle bruyante avec plein de gens qui parlent, et homme avec un bandage sur la tête, quoi. Donc, je me le suis créé. Parce qu'on m'avait dit, il a mal à la tête, il est soigné, il est à l'hôpital. Par contre, après, je me souviens très bien que c'est ma sœur qui a posé la question, mais pourquoi il est en prison? Et ma mère qui a répondu, ça je me souviens très bien, elle était dans la voiture, c'était un lundi matin, j'avais une interro de maths après, j'étais en sixième, donc j'avais une dizaine d'années. Et elle nous dépose à l'école, et elle nous lâche parce qu'il a tué des gens, plusieurs personnes. Et là, pour le coup, je m'y attendais pas, parce que je connaissais déjà la personne et pas le criminel en fait. Il avait tué l'amant de sa femme et la famille de cet amant. Ah bah moi, ça a attisé ma curiosité. C'est-à-dire que moi, on m'en disait plus j'avais envie d'en savoir. Après, c'était une enquête, mais pendant 10 ans, quoi. Je me souviens que j'étais exaltée, quoi, quand je fouillais dans les papiers. Je me souviens très bien d'une matinée où j'avais ouvert le bureau de ma mère. J'étais tombée sur des dossiers. Il y avait des écoutes, il y avait des témoignages. J'avais tout... Oh, mais j'étais comme un détective privé qui avait trouvé... Enfin, c'était génial. Il y avait quelque chose, je pense, d'hyper vertueux, bizarrement. La première fois que j'ai dit que j'avais un oncle en prison, c'était pour frimer, enfin, c'était pour rétorquer à quelqu'un quelque chose et avoir un argument. Et parce que, je sais pas, on devait parler des... Mais j'étais adolescente, j'étais étudiante. C'était lors d'un débat politique sur le droit des détenus. Et en face de moi, j'avais une amie qui était vraiment horrifiée du fait que les détenus avaient la télé et tout. Elle était un peu rude, quoi. Et, situation carcérale, pour eux, c'était des nantis. Ils dormaient au chaud et en plus, ils avaient la télé. Ils pouvaient faire du sport, ils avaient la télé. Et moi, ça m'a un peu heurtée quand même. Et j'essayais de parler d'autres choses, quoi, de la condition de détenu, la privation de liberté, enfin, la base, être quand même enfermé. Et donc, l'argument, c'était de... Chacun se disait, mais t'en sais rien. Et moi, je disais, bah si, parce que moi, j'ai un oncle, et tu peux pas dire ça. Voilà, et c'était sorti avec beaucoup d'émotions. Donc là, c'était vraiment sorti avec violence, avec colère, avec... Et après, j'avais un moment où j'étais... petit moment d'effroi à me dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, waouh. Et par contre, au fil des années, je suis devenue familière avec ce secret. Et alors ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'un secret, plus tu le répètes, plus ça le banalise et donc ça le détruit. Ce n'est plus un secret, c'est assumé.
Je suis salvadorienne et je suis arrivée ici en France en 81. Mon mari, il était déjà ici avec mon frère. En fait, je n'ai pas pu venir avec eux parce que j'étais enceinte de mon dernier enfant. Donc, je suis restée toute seule là-bas. Les premiers mois, mon mari m'envoyait de l'argent pour pouvoir nourrir mes 3 enfants, et moi aussi d'ailleurs. Et il y a un jour, je n'ai rien reçu du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à travailler comme j'ai pu enceinte. Je lavais le linge avec des personnes riches. Je frappais leurs portes pour voir s'ils avaient besoin de repassage ou de lavage pour pouvoir m'en sortir avec mes enfants. En attendant que mon enfant puisse naître. Et maman, il était ici en France quand eux, ils sont venus. Maman, il aimait beaucoup mon mari, si on peut dire comme ça. Parce qu'on n'était pas mariés. Et donc, je lui ai demandé à maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je n'avais pas de nouvelles? Et maman me répondait, oui, parce qu'il travaille. Je ne le vois pas souvent, il est avec ton frère et... Ils ne viennent pas souvent me voir, me rendre visite. Bon, bah, c'est maman, je croyais, est-ce que maman elle me disait. Donc, maman, il m'a envoyé de l'argent pour que je puisse venir avec mes 3 enfants. Et quand je suis arrivée ici à l'aéroport, c'est mon mari, mon frère et ma mère qui sont venus me chercher, tous les trois ensemble, que je me suis perdue à l'aéroport. Parce que je suis arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle et cet aéroport-là, c'est comme on l'appelle, le fromage. Eux, ils étaient dans une étage et moi, j'étais dans un autre. Et en ce moment, j'entends par le micro que ma mère, il m'appelait. Il y a une hôtesse qui est venue, il m'a demandé si c'était moi, Madame Martinez. À la fin, on s'est retrouvés, mais c'était mon mari. J'étais surprise de le voir comme il avait changé. Il était, on dirait qu'il était une autre personne, en fait. Et ce n'était pas le même monsieur que j'avais connu. Il ne savait pas quoi me dire. Je trouvais ça un peu, je ne sais pas, déplacé. J'aurais voulu qu'il court, qu'il m'embrasse, qu'il dise « oui, tu m'as manqué ». Des paroles comme ça douces. Et rien du tout. C'était le froid complet. Donc on a rentré à la maison où maman y travaillait. Il lui donne une chambre de bonne, je crois qu'il n'y a personne. Et on était tous là, donc, les quatre enfants. Et lui, il s'est levé, de bonne heure, il partait. Il ne me demandait jamais si ça allait, pour trouver une solution, comment on pouvait faire. Ben non, il rentrait, il sortait, indifféremment. Je commençais à trouver ça bizarre, mais je me disais, c'est peut-être la façon de vivre ici, c'est comme ça. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'avais 21 ans, donc je ne connaissais rien du tout de la vie, en fait. Et après que la patronne de maman il nous a mis à la porte, on dormait un peu à droite, à gauche. Mon frère il avait un salon de coiffure, il faisait le ménage le soir. On dormait tous là-dedans. Et à 5 heures du matin, il fallait réveiller les enfants. Mais mon mari, il ne dormait pas dans le salon. Je ne sais pas où il partait. Je le disais à maman, je veux retourner chez moi. Qu'est-ce que je fais ici? Mes enfants, ils sont malheureux. Ils ne voient pas souvent leur père. Et personne ne voulait me dire quoi que ce soit. Et ensuite, quand maman m'a dit, voilà, on nous a trouvé un appartement. C'est à ce moment-là que lui, il est venu. Et c'est là où je commençais un peu à dire, mais pourquoi il vient maintenant? J'ai trouvé un peu bizarre qu'il change d'attitude, de façon de nous traiter. Et du coup, il a signé le bail avec moi et on a commencé à aménager. On n'avait rien du tout. On dormait par terre. Il buvait beaucoup. Mais énormément. Il était tout le temps bourré. Et tout à coup, il me parle très fort. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, j'avais plein de sacs dans les mains. Il me dit, oui, tu vas voir tes copains. Il était très jaloux. En fait, il voulait renverser la situation. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, oui, bah écoute, je suis mariée, je suis restée glacée. Complètement glacée, je dis, mariée, comment ça? Oui, bah je me suis mariée parce que pour avoir mes papiers, être bien, pour que tu puisses venir. Je me suis mis à pleurer. Ça faisait un an et demi que j'étais en France. Du coup, j'apprends qu'elle est mariée avec une Française et qu'elle avait un garçon. Je ne savais pas comment réagir, en fait. Lui, il a rigolé, il a ouvert le frigo, il a pris une autre bière. J'ai téléphoné à maman et je lui ai dit, maman, Luis, il est marié. Et il m'a dit, mais fais pas attention parce que il avait bu et il a couché avec une Française dans une fête. Et la dame, je sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont fait qu'il s'est marié en fait parce qu'il était enceinte. Du coup, quand je l'ai su, quand il m'a dit, ça m'a choqué, mais dans la nuit, je me dis, mon Dieu, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il venait pas, pourquoi est-ce que je me suis sentie dans un gouffre. Je me suis sentie trahie par ma maman, trahie par mon frère. En fait, je me suis sentie seule dans le monde. J'avais la haine parce que je ne savais pas comment m'exprimer pour lui dire que sa présence me gênait, me rendait malade. Et un jour, c'était pour son anniversaire, j'ai quitté la maison. On s'est perdu de vue, complètement disparu de la surface de la terre. La confiance maintenant, je me sens entre guillemets forte, mais triste à la fois parce que les secrets, en fait, c'est un grand destructeur de la vie mentalement. On est toujours en tension, on n'est jamais tranquille parce que il est là, il est présent quotidiennement.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar.
Aujourd'hui encore, c'était Des pieds sur terre et Des secrets de famille. Un reportage de Fabienne Lhomonier réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Eglantine, à Laura et à Anna Sylvia. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production Des pieds sur terre.
Que quieras sentir, que un día no puedas, si mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas si mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré.